Alors, je m'appelle Philippe Garnier, je suis déjà venu une fois, il y a quelques semaines, quelques années, peut-être là, à cette occasion, de l'honneur de revenir parmi vous. Je suis ancien dans l'Assemblée de Mélanie de Belfort, et je suis médecin encore un peu en activité, je m'occupe de l'appareil digestif. Et quand on me demande d'apporter une parole, que ce soit ici ou dans notre Assemblée, ou ailleurs, je demande toujours au Seigneur ce qu'il a vu comme pensée, parce que sinon on peut obéir à un programme qui peut être bien, mais qui peut pas forcément être le sien. Alors je lui demandais ce qu'il avait pour vous, puis ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est aussi quelque chose pour celui qui parle. Vous savez, je crois que le besoin est d'abord à celui qui l'exprime, et ensuite il peut être celui de tous. Alors je vais vous parler d'un problème tout simple, que vous connaissez peut-être. C'est peut-être des problèmes de foi. Pas de foi, oui, hein, des problèmes de foi, oui. Ça va peut-être vous arriver, moi ça m'arrive de temps en temps, des problèmes de foi. Alors ce qui fait que je suis heureux de pouvoir en parler. Vous savez que la foi, c'est la chose la plus simple qui existe. Il n'y a pas de chose plus simple que la foi, non? Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est aussi en même temps la chose la plus difficile. Pas vrai? C'est la chose à la fois la plus simple et la plus difficile pour nous, parce qu'elle n'est pas naturelle pour nos cœurs. La foi n'est pas naturelle. On a besoin de croire ce qu'on voit. Puis c'est un chemin inverse que le Seigneur nous montre. C'est la chose aussi qui nous distingue des autres. Hein. C'est celle-là qui fait qu'on est réunis aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, on a répondu à cette foi, qu'on y a cru, sans avoir vu. Mais bientôt, nous verrons. Et alors, on va prendre quelques exemples, si vous voulez bien, de foi manifestée par trois papas. Il y a peut-être des papas parmi nous, alors ils pourront se reconnaître, les mamans aussi, parce que finalement, c'est un petit peu la même chose. On va d'abord commencer par un premier papa qui est dans Luc 8. Alors, c'est des épisodes qui sont bien connus. Hein. Luc 8, c'est la résurrection de la fille Jaïrus. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Voilà le premier épisode. On peut rappeler que le Seigneur Jésus n'a jamais fait de prosélytisme. Quand il allait dans des villages, il n'arrivait pas en disant « il y aura une réunion de guérison ce soir à 17h, que tous ceux qui ont des besoins viennent ». Non. Quand il arrivait, il laissait les gens venir à lui. Il n'a jamais fait de publicité. Et c'est le même principe. Vous savez, la foi, elle répond à celui qui en a besoin. Si on n'a pas besoin de foi, on n'a pas besoin d'aller vers lui. Ben, c'est tout simple. Il répond, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et pour aller à lui, il faut avoir un besoin. Si on n'a pas de besoin, on n'y va pas. Donc il n'a jamais été plus loin, le Seigneur Jésus, hein, dans son ministère. Jamais. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se rappeler souvent, il y a des manifestations que peut avoir, même dans certaines églises, tout à fait honorables. Il y a des frères qui se lèvent et puis qui proposent des guérisons, bien qui disent, il y a quelqu'un dans la rangée à gauche qui a mal au dos. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Il faut faire très attention avec ça. Parce que le Seigneur n'a jamais fait de divination, lui. Puis quand on dit, en général, quelqu'un a mal au dos dans une assemblée, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas au moins un qui ait mal au dos. Donc finalement, on est sûr de ne pas tomber à côté. Mais il faut prendre au sérieux ce que Dieu fait. Et non pas faire des prophéties ou des prédictions ou des trucs que le Seigneur ne nous a pas demandé. Le Seigneur, il répond, lui. Hein, donc il faut savoir qu'il répond à des besoins. Et ces besoins qui sont exprimés par ceux qui vont vers lui. Et c'est ce que fait le chef de la synagogue, Jaïrus. Il vient, il se supplie, il se met à ses pieds. Le Seigneur Jésus, il dit rien, il semble. Hein. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc il part. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais il l'a suivi. On va sauter un petit épisode, c'est celui de cette femme qui était victime d'une perte de sang depuis 12 ans. Et on va repartir après sur le chemin que le Seigneur suit avec son obligé pour aller chez sa fille. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant « ta fille est morte, n'importune pas le maître ». Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée ». Voilà le point essentiel. On peut dire aussi que ce papa, il avait quand même de la chance, parce qu'il avait à la fois le beurre et l'argent du beurre, si vous voulez. Il avait la parole du Seigneur Jésus, puis Seigneur Jésus lui-même avec lui. C'est merveilleux, quand même. On aimerait bien être comme lui. Mais quand les amis viennent en disant « n'importune pas le maître, ton enfant est décédé, est morte », c'est quand même un mot fort. Ne crois pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, parce qu'elle était morte. C'était tout à fait logique. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, du Seigneur Jésus, avec juste raison, sachant qu'elle était morte. Il le savait, il l'avait constaté, il l'avait touché, elle ne bougeait plus. Elle était morte, il se moquait de lui, ce n'était pas très gentil, mais c'était quand même une réalité. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Les parents ont cru. Mais on peut dire quand même qu'ils avaient même de la chance, c'est vrai. Ils avaient le Seigneur qui était à côté d'eux, et vous savez, quand le Seigneur Jésus parlait, je crois que personne ne pouvait rien dire. Il y avait une autorité que donne l'autorité de Dieu, de la soumission à Dieu. Le Seigneur Jésus était soumis à l'esprit de son Père. Vous savez que parmi les hommes, il y a des gens qui prennent le pouvoir, des politiciens, des rois en Afrique, qui prennent le pouvoir ou qui s'autoproclament empereurs. Le pouvoir, les hommes le prennent. Mais l'autorité, seul Dieu la donne. C'est deux choses totalement différentes. L'autorité à donner à ceux qui sont soumis à l'esprit. Le Seigneur l'était, et dans son cheminement, un seul regard de sa part suffisait à éteindre toute polémique. On ne peut pas résister, parce qu'il était l'esprit du Père incarné, dans une parfaite soumission, une parfaite obéissance, et il marchait totalement dans ses voies. Donc ils avaient sa présence, et en même temps ils avaient sa parole. Ne crains point, crois seulement. Quelque chose qui était fait. C'est la même chose pour Lazare.
Croire, c'est confiance.
Mais c'est tout à fait ça. C'est le mot. Maintenant, c'est tout à fait juste ce qu'elle dit. Croire, maintenant, la foi, c'est un petit peu un mot qui est galvaudé, hein, parce qu'il était tellement utilisé, la foi. Celui-là, il a la foi. Hein, ça lui est tombé du ciel, il a la foi, il a de la chance. C'est pas du tout ça. La foi, c'est la confiance. Et la confiance, elle vient de celui qui éprouve la confiance, qui la manifeste. On peut avoir confiance dans son propre cœur. Les proverbes disent que celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Et il s'écroule. Mais la confiance, c'est la foi. Et cette confiance, elle s'exprime par des actes. Il a cru, il a suivi. Mais on peut dire encore une fois qu'il avait été accompagné par celui qui lui parlait. Il a bu avec lui. Mais il a quand même cru à cette parole. Alors que le Seigneur Jésus était moqué par les autres. Et il savait qu'elle était morte. Elle n'est pas morte, mais elle dort. En fait, elle était morte puisque son esprit revint en elle. Donc, elle était partie. Voilà un premier exemple d'un papa qui est exaucé. Pas la simple chose à faire, c'est d'aller vers lui, avec son besoin. Sans exigence, mais avec une parfaite détermination. Comme cette femme de Canaan, dont la fille était possédée d'un mauvais esprit. Elle est venue au pied du Seigneur Jésus, qui d'abord lui a refusé l'accès. Il lui a dit, ne pars pas. Elle s'est précipitée à ses pieds avec une détermination absolue et absolument dénuée de toute exigence, mais de tout son cœur. Il a même dit qu'il était là pour son peuple, qui était parvenu de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux petits chiens. Mais il a dit que les petits chiens mangeaient les miettes qui tombaient de la table. Une miette du Seigneur Jésus, ça suffit, vous savez, pour un exaucement, une guérison. Il lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez que le Seigneur Jésus n'a jamais fait aucune guérison. Ça vous étonne, hein? Aucune. Comment elles ont été occupées, elles ont été effectuées ces guérisons? Il n'en a fait aucune. C'est quoi qui a fait ces guérisons? C'est la foi au Seigneur Jésus qui fait la guérison. On a sauté un peu l'épisode de cette femme qui était victime d'une perte de sang depuis 12 ans, et puis qui a touché le Seigneur Jésus par derrière son vêtement. Elle ne l'avait même pas vu. Elle n'avait même pas vu son visage. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Si je touche son vêtement, elle n'a pas dit, je serais peut-être guérie, tentons la chance, hein, qui ne risque rien à rien. Elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Seigneur, qui était pressé par une foule immense, s'est retourné, dit à ses disciples, qui est-ce qui m'a touché? Et les disciples lui ont dit, mais écoute Seigneur, la foule entière te presse, puis tu dis qui t'a touché, mais il y a des dizaines de personnes qui te touchent. Non. Il n'y en a qu'une seule personne qui l'a touché. Une seule, c'était elle. Elle ne l'a pas frôlé, elle l'a touché volontairement. De dos encore, sans savoir qui il était, elle était prête à repartir, guérie, sans même oser lui dire.
C'est un miracle.
Mais c'est un miracle absolu. C'est le miracle de la foi, de sa foi, elle. De dire, qu'est-ce qui m'a touché? Elle est venue toute tremblante, elle était prête à repartir, sans demander son reste, elle avait sa guérison. Le Seigneur l'avait guérie sans même qu'elle le voie. Alors c'est un encouragement pour nous, qui n'avons pas vu, mais qui, bon, on peut faire comme elle, la croire. Elle est venue toute tremblante, et lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Parce qu'elle l'a touchée différemment de tous les autres qui le... Il faut les. Il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont côtoyé le Seigneur Jésus et qui sont partis comme ils étaient, avec rien. Parce qu'ils n'avaient rien à lui demander. Ils ne lui ont rien demandé. Ça nous montre à quel point le problème est toujours dans notre cœur. Est-ce qu'on a un vrai besoin? Tu as dit tout à l'heure, que, dans le psaume 45, que le Seigneur est prêt de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, de tout leur cœur. Il ne donne pas d'autres conditions. Hein. S'il faut se repentir, il le dira. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tous, quels qu'ils soient.
Un besoin, ça peut être quelque chose de concret.
Mais tout à fait, avec sincérité. Mais il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Si on ne craint pas, de toute façon, si on ne craint pas, on n'a pas d'assurance dans la foi. Mais c'est ceux qui le craignent. On voit déjà ce premier papa là qui a été exaucé, qui lui avait la chance d'avoir le Seigneur Jésus, sa parole, c'est sa parole hein, qui a été accomplie. Il avait le Seigneur à côté avec sa parole. Mais c'est cette parole qui a été accomplie, qui a été exaucée. Donc on va voir maintenant un deuxième papa, alors qui lui était peut-être encore plus loin. Dans Jean 4, il a fait une chose merveilleuse, vous allez voir. Jean 4, des versets 47 jusqu'à la fin du chapitre. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut lui et toute sa maison. Ça, c'est merveilleux. Vous ne trouvez pas? Voilà un homme qui vient, qui se jette comme Jaïrus au pied du Seigneur Jésus en lui disant, « Viens. » Mon fils est en train de mourir, viens le sauver, viens le guérir. Et qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il fait comme avec Jaïrus? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait avec chacun de nous comment il doit et comment il faut répondre. Pour le même besoin, il va répondre d'une manière différente, avec moi, avec vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais lui sait. Et il savait qu'avec cet homme-là, il fallait répondre de cette façon-là. D'abord, il lui dit, si vous ne voyez des miracles et des produits, vous ne croyez point. Le papa ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit, viens, viens, mon enfant meurt. Il avait un besoin, mais alors aussi puissant que la femme cananéenne avec sa fille. Viens, mon enfant meurt. Et là, il a donné une réponse qui aurait dû donner espoir. Il est parti avec Jaïrus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va, ton fils vit. Et Seigneur Jésus a poursuivi son chemin. Va, ton fils vit. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il a cru. Parce que le Seigneur Jésus lui avait dit, il l'a cru. Et vous savez, qu'est-ce qui montre qu'on a cru? C'est quoi? Ben c'est la suite, c'est les fruits. Il est reparti à pied, et un détail après nous montre qu'il a fait beaucoup de chemin. Puisque son serviteur qui lui a dit qu'il était guéri, il lui a demandé à quel moment il était guéri. Bien hier, à la septième heure, sa fièvre l'a quitté, hier. Donc il a dû marcher probablement toute la nuit, hier. Ce n'était pas 2 kilomètres. Et quelle était l'attitude de cet homme, qui était un chef de synagogue? Il devait être accompagné par des serviteurs. À votre avis, en revenant voir son fils, il était un petit peu tremblant, chancelant, dans le doute ou dans la joie? À votre avis, il était comment? Comment?
Dans la joie.
Mais bien sûr. Autrement, il n'aurait pas
cru.
Il n'aurait pas cru. Souvent, on dit, Seigneur, tu sais, Seigneur, je te crois de tout mon cœur. Hein, mais une condition, c'est de ne pas mettre en application ce que tu me demandes. Bon, c'est ça. Mais c'est ça, on fait souvent comme ça. Il faut être honnête avec Dieu. Quand on a mal du corps, on verra tout à l'heure, il faut lui dire. C'est la vérité qui a franchi. Elle seule. Il est revenu dans la joie. Vous vous rendez compte qu'il était accompagné de serviteurs qui peut-être eux n'avaient pas cru la parole du Seigneur Jésus, on n'en sait rien. Il est revenu triomphant. Triomphant en marchant plusieurs heures, probablement toute la nuit, sans avoir vu son fils. Et dans la joie totale. Dans la joie. La victoire était là. La victoire de sa foi. Encore une fois, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui l'a guéri. S'il n'avait pas, s'il était parti sans croire, il serait rentré avec la fièvre, peut-être mort. Va, ton fils vit. Il est rentré. Ton enfant vit. Il leur demande à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et regardez les fruits. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui, et toute sa maison. Pourquoi sa maison a cru? Parce qu'elle a vu chez ce père, chez ce papa, le fruit de la foi. Elle s'est dit, celui, ah, il a trouvé vraiment celui qui est vraiment le sauveur du monde. Dont sa famille n'avait pas vu le Seigneur Jésus. Mais elle a cru en celui qui avait vu le Seigneur Jésus et qui avait cru ce qu'il disait. Voilà. Comme vous dites, la foi est la chose la plus simple, hein, mais la plus difficile. Elle vient toujours de quoi, la foi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une parole. C'est une parole, c'est tout. Souvent, vous êtes peut-être comme ça, mais vous arrivez souvent, on lit la Bible avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de vénération, c'est la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et après, on la referme en disant, maintenant, comment je vais faire pour m'en sortir? Mais oui, il faut être honnête. Il faut être honnête. Je l'ai lu, j'ai fait mon devoir, c'est bien, je suis en règle, je suis en ordre. Je ne suis pas sauvé du tout, je ne suis pas exaucé, puisque je n'ai pas cru, mais j'ai lu la Bible. Mais la Bible n'est pas du tout un livre à vénérer. Ce n'est pas un livre qu'il faut admirer, c'est un livre qu'il faut appliquer. La Bible, c'est un livre de recettes de cuisine, où il est marqué ce qu'il faut faire. Si on ne le fait pas, le gâteau, il rate. Vous savez, la pâtisserie, c'est très précis. Hein. Moi, je ne sais pas très bien en faire, mais la pâtisserie, si vous ratez les proportions, c'est terminé. Eh bien, oui, l'obéissance, l'obéissance de la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je n'applique pas ce qui est dit, à quoi ça sert de la lire? Autant lire le journal. Au moins, on sait ce qui se passe, on est content. Pas toujours, hein. Mais la Bible, c'est ça. Si je la lis sans l'appliquer, ça ne sert à rien. Et nous qui sommes habitués un petit peu à la lire souvent, c'est un travers dans lequel on tombe. On dit que la parole, Seigneur, elle est merveilleuse. Je ne l'appliquerai pas, mais elle est merveilleuse quand même. Ben, le Seigneur dit, non, c'est pas la peine. Tu n'as pas cru ce que j'ai dit. Et alors, quelle est la condition aussi pour avoir cette foi? Ben, il faut consulter celui qui est à l'origine et qui est dans l'établissement de la foi. Donc, il faut lire sa parole. Si on la lit une fois tous les trois mois, il ne peut pas nous donner des promesses qu'on n'a pas cherchées. Il faut la lire tous les jours. Et là, il va nous répondre à nos besoins tous les jours. Dieu ne peut pas nous rendre ce qu'on ne lui a pas donné. Si on ne lui donne pas une partie de notre temps, moi j'ai des amis qui sont médecins et qui sont débordés. Et puis comme on a certaines réunions dans certaines associations, dans ces réunions, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont débordés. Ils ne viendront jamais. C'est comme dans notre vie de prière ou de lecture. Seigneur, tu vois, j'ai un travail fou, j'ai un tas de patients à rendre, j'ai pas le temps. Mais si on ne dit pas au Seigneur maintenant, j'ai décidé que cette heure-là, je la passerai avec toi, ben je vous assure qu'au bout de 30 ans, vous n'aurez toujours pas le temps. Ou si vous voulez faire un jogging à la place, vous aurez le temps de le faire, mais pas ça. Ben, le Seigneur nous dit, attends, tu as le fruit de ce que tu as choisi. Tes priorités, tu les mets en évidence. Si ta priorité, c'est de me rencontrer, tu as fait le bon choix. Et je te donnerai le reste par... dessus. Dieu est fidèle à sa parole. Choisissez en premier sa justice et le reste sera donné par-dessus. Donc ses amis chrétiens, médecins chrétiens, je ne les critique pas. Mais je sais, pour éprouver moi-même, que si je n'ai pas fait le choix de dire maintenant Seigneur, je passe ce moment avec toi, c'est fini. Et après, miraculeusement, le Seigneur accorde les rendez-vous, les patients qui viennent au moment voulu. Il est tout puissant, il dit, c'est bien. Tu as fait ce que je te demandais maintenant, ton emploi du temps, il est bien. Et même mieux qu'avant. Parce que Dieu est fidèle à ce qu'il dit de lui-même. Mais on est tellement fous dans notre tête qu'on ne croit pas que ce qu'il dit est réellement vrai. Mais bien sûr que si. Bien sûr. Il est fidèle à sa parole. Dans ce qu'il dit sur nous et dans ce qu'il dit sur lui. Voilà. Maintenant, on va voir un troisième exemple, un troisième papa. Là aussi, ça va nous aider pour nous dire qu'après, on n'a plus l'excuse de ne pas avoir de foi. Comme ça, on ne sera pas venu pour rien. Alors, c'est dans Marc, le chapitre 9. C'est un exemple merveilleux de foi parce qu'il n'est pas habituel. Mais c'est un exemple de foi qui part sur une vérité. On va voir. C'est aussi un papa qui a... Alors, Marc 9, le verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, c'est le Seigneur Jésus, Pierre, Jacques et Jean qui reviennent de la montagne de la Transfiguration. Et les disciples étaient restés sur place et un homme de la foule avait demandé à ses disciples la guérison de son fils qui était lunatique, qui en fait était épileptique. Et il n'y a pas eu de résultat à leur demande. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ?» Il parle à ses disciples, hein. « Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, lui répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voilà une des plus belles paroles de foi de toute la Bible. Vous vous rendez compte comment le Seigneur a réagi? Cet homme, il est honnête. Il dit, « Mais si tu peux quelque chose pour nous. » Il a dit comme il le voit, comme il le pense. Il ne cherche pas à masquer son manque de connaissance du Seigneur Jésus. Il vient vers lui, cet homme, il ne l'a jamais rencontré. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Vous avez vu que l'humilité du Seigneur Jésus, il aurait pu se vexer, se formaliser en disant au Père, écoute, est-ce que tu as vu celui à qui tu as affaire? Tu as vu celui qui est en face de toi? C'est un peu ce qu'on dirait, nous, hein? Non, pas du tout. Il ne s'est pas vexé ni formalisé, pas du tout. Si tu peux. Tout est possible à celui qui
croit. Rien n'est impossible.
Tout à fait.
Rien n'est impossible.
Tout est posé à celui qui croit. La façon dont il a répondu montrait encore son autorité. La même phrase, vous savez, elle peut apporter l'autorité, elle peut apporter la vie ou apporter la mort. Tout est possible à celui qui croit. Quand le Seigneur parle comme ça à quelqu'un, il n'y a plus aucune réplique possible. Aucune. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Seigneur, je crois. Une parole merveilleuse. Viens au secours de mon incrédulité. Alors, on présente souvent cette parole comme étant une parole de doute. C'est une parole de foi merveilleuse. Qu'est-ce qu'il dit en premier ? Je crois. Je crois, Seigneur. Ça veut dire je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. On peut aller comme ça vers lui. Seigneur, tu vois, il ne vous arrive pas dans votre vie d'avoir des endroits, des problèmes particuliers dans lesquels vous avez du mal de croire. Ça vous est jamais arrivé d'avoir du mal de croire ?
Des doutes ?
Moi, ben oui. D'avoir du mal, non ? Jamais ? Moi, ça m'arrive souvent d'avoir du mal de croire. Ce n'est pas de mal, la foi serait quand même, n'aurait pas beaucoup de prix ou d'enjeux. Croire que le Seigneur Jésus peut sauver une personne aux Indes ou au Bangladesh, moi j'ai aucune difficulté. Hein. Mais croire qu'il peut me sauver de certaines choses, c'est différent. Quand ça nous touche, nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, là ? C'est comme cet homme. Seigneur, je crois. Je crois, c'est quoi ? C'est aller vers lui. Il ne s'est pas détourné de lui. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est une parole merveilleuse de foi. Parce qu'il a la foi que celui en qui il croit peut même, après, augmenter sa foi, la susciter. Quand les disciples ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi, il n'a pas répondu. Il n'a pas dit « je vais vous l'augmenter ». Il leur a dit « si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, déracine-toi ». Oui. Donc ça veut dire que la foi, je m'en occupais. Viens vers moi. Il a fait ce qu'il fallait faire. Seigneur, je crois. Il est venu avec la vérité de son cœur. Il n'a pas dit, je vais me forcer à croire. Moi-même, ce n'est pas encore acquis, mais personne ne le verra. Sauf le Seigneur et moi, puis encore. Eh bien, non. Il a dit, je crois, viens au secours. Viens au secours de ma difficulté à croire. On peut même y aller comme ça. Rendez-vous. C'est merveilleux, hein. Ça montre que la foi, c'est aller vers lui. Coûte que coûte. Qu'il réponde ou pas. Qu'il réponde maintenant ou dans 10 ans. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Tu répondras. C'est peut-être pas le bon moment maintenant. C'est peut-être pas la bonne formulation. Mais tu répondras. Et c'est ça la foi. C'est aller vers celui qui a les clés. Les clés dans sa main de la vie, de la mort, du royaume et de la victoire. C'est lui. Et qui peut s'occuper de votre foi. Viens au secours. Viens au secours de ma difficulté à croire. Quand vous avez après un problème qui vous touche, pour lequel vous n'avez pas de victoire, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la vérité. Si vous priez pour un problème précis, et qu'un quart d'heure après vous êtes toujours aussi fébrile à tourner en rond à droite et à gauche, ben c'est que vous n'avez pas cru. Et alors, au lieu de dire qu'on a fait nos devoirs, notre obligation, vous dites, tu vois, Seigneur, ça fait 3 fois que je te prie, j'y arrive encore pas. Mais je reviens quand même. C'est la vérité qui nous affranchit. Si on n'est pas libéré du fardeau, et puis qu'il règne encore sur nous, il ne faut pas avoir honte de lui dire. Toi, Seigneur, ça fait 10 fois que je viens aujourd'hui, ben, je viens encore pour la 11e fois. Mais interviens. Interviens, et il le fera. Parce que cette demande est une demande de foi. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a frappé à la bonne porte. Si on prie le Seigneur Jésus qui n'a pas répondu, puis qu'on va avoir un guérisseur après, il ne répondra pas, ça je vous garantis. Mais si on l'a prié, qu'il n'a pas encore répondu, écoute Seigneur, donne-moi une réponse, une parole. Et c'est là qu'il nous enchaîne par la lecture de sa parole. C'est souvent dans la lecture qui suit les heures ou les jours qu'il nous répond. Mais si on ne cherche pas dans sa parole, c'est que ce contact avec lui n'a pas beaucoup de prix pour nous. Donc il dit, ma foi, je ne vais pas répondre, puisque de toute façon, il ne me consulte pas. J'ai souvent eu des réponses dans mon cœur, dans la parole qui venait les jours suivants. Seigneur, tu m'as répondu. Peut-être pas forcément comme j'aurais pensé, mais d'une façon qui est toujours meilleure la sienne. Mais il répond donc par sa parole, par les circonstances, par les frères et sœurs, mais avant tout par sa parole. Seigneur, je t'ai demandé ça maintenant, tu vois, mes yeux sont sur toi. Et vous verrez que dans votre lecture, il va vous parler et vous répondre. En disant, j'ai attendu ta voix. C'est peut-être pas pour maintenant, mais j'ai entendu. Le Seigneur un jour m'a dit qu'il achèverait ce qui me concernait. C'est bien. Il achèvera ce qui me concernait. Tout est bien. C'est pas moi qui achèverai, c'est lui. Il va peut-être faire encore en moi des choses qui sont nécessaires, mais il s'est engagé, il achèvera ce qui me concerne. C'est merveilleux quand Dieu s'occupe d'une vie. Et ce papa a fait ce qu'il fallait faire. D'abord, il a marché dans la vérité. Ne proclamons pas des choses que nous ne vivons pas. N'ayons pas honte d'être encore dans la défaite. Mais dire, Seigneur, tu vois, j'ai encore eu du mal, je n'ai pas encore réussi à me décharger du fardeau. Parce que vous savez, quand il est marqué dans la parole, dans 1 Pierre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il faut partir comment quand on s'est déchargé de tous soucis? Repartir comment? Comment?
La patience et la persévérance.
Oui, il faut repartir à vide. Non? Si on ne repart pas à vide, c'est qu'on reprend notre fardeau. Il ne faut pas déposer la moitié au Seigneur Jésus, puis reprendre l'autre moitié. Parce qu'avec une petite ficelle, la première moitié viendra avec. Hein. Et s'il n'y arrive pas, disons-lui, je t'ai apporté mon fardeau, mais décollé avec du scotch derrière moi, puis je suis reparti avec. Mais Seigneur, tu le vois et tu le sais. Est-ce qu'on peut tricher devant lui? Mais restons vrais, vrais avec lui. Il y en a un qui n'a pas fait ça, et qui est parti sans attendre de réponse et sans avoir la bonne attitude. Qui est celui qui est parti? On ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est un jeune homme très très bien.
Jeune homme riche.
Oui. Qui était bien sous tout rapport. Quand il demande au Seigneur Jésus, que faut-il être pour être sauvé? Il a dit, bien, honore ton père et ta mère, ne commets pas d'adultère, d'impudicité, ne commets pas de vol, n'envie pas, n'aie pas de convoitise. Le jeune homme riche lui a dit, Seigneur, j'ai fait ça dès ma jeunesse. Est-ce que le Seigneur Jésus l'a contredit? Non. C'était vrai ce qu'il avait dit. Autrement, il l'aurait dit. Hein. Il te manque une chose. Ah, c'est embêtant. Hein. Parce que le Seigneur Jésus connaît nos cœurs. C'est là le gros problème. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Or, il était extrêmement riche. Ah, il est parti tout triste. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, ce jeune homme, à votre avis? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse?
Séparer
ça, ben non, il ne pouvait pas. Il l'aurait fait.
Faire confiance à Dieu.
Mais quoi? Il fallait dire au Seigneur, tu sais, Seigneur, tu m'as touché au point sensible. Hein. Eh bien, Seigneur, j'y arrive pas. J'y arrive pas à le faire. Tu sais, c'est plus fort que moi. Je suis attaché assez bien, c'est plus fort que moi. Mais interviens. Interviens. Et il l'aurait fait. Interviens. C'est plus fort que moi. Il le sait bien, c'est plus fort, puisque c'est ça qu'il lui demandait. C'est la seule chose qui lui manquait. Dans nous, il y a des choses que l'on est attaché. Seigneur, tu vois, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais toi, tu y arriveras. Utilise les chemins qu'il faut, mais tu y arriveras. C'était ce qu'il fallait. Il a fait la seule chose qu'il ne fallait pas faire avec le Seigneur Jésus, la seule, une seule, c'est tourner les talons. Peut-être qu'il est revenu après, on le souhaite pour lui. Mais il a tourné les talons. C'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Donc ce qui nous aide, c'est une, deux choses. D'abord, la première, d'aller vers lui. Coûte que coûte. Deuxièmement, d'y aller avec vérité. Avec vérité. On a du mal de croire. Souvent, on a honte de le dire, on n'ose pas lui dire. Mais Seigneur, tu sais, j'arrive pas à croire. Toi, cette chose-là, ça ne dépend, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que tu peux t'en occuper. J'y arrive pas. Oh, je te le dis. Il va intervenir. Donc, c'est de rester attaché à lui. Accroché à lui. Dis, Seigneur, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. C'est ce qu'a fait Jacob. Je ne te laisserai pas. C'est ce qu'a fait la femme cananéenne, elle a été exaucée. Parce que sa demande était juste. Vous savez, si on a une demande qui n'est pas honorable, on n'aura pas de bonne conscience pour le faire. On s'épuisera vite. Mais si elle est parfaitement honorable, le Seigneur n'est pas gêné qu'on le tanne, qu'on revienne à la charge. Pas du tout. La femme cananéenne est revenue à la charge. Alors, allons-y vers lui avec notre foi triomphante. Allons-y avec notre foi chancelante. Allons-y avec notre foi. Bon retour.
Merci.
Le Seigneur Jésus est venu pour des êtres comme ça aussi.
Oui.
Eh oui. Et on doit les prendre comme... Hein, il s'occupera d'elle. On pourra lui confier. On ne sait pas quoi faire pour la délivrer, la pauvre. Hein. Mais lui, il sait. Il sait comment il va faire. Parce que les choses impossibles, elles sont pour lui. Les choses qui nous dépassent aussi. Alors il les envoie aussi pour nous dire, voilà, n'acceptons pas ce qui n'est pas une pleine délivrance pour nous. Pour nous. Il n'est pas venu pour améliorer les choses. Il n'est pas venu pour donner un petit coup de main. Il n'est pas venu pour nous apporter un plus. Vous savez, la foi, ce n'est pas un plus. C'est un autre royaume. Il est venu pour une délivrance. Pourquoi? Parce que lui l'a dit. Et s'il l'a dit, si je ne crois pas, je serai mon seul juge. Pour que les captifs aient la délivrance et qu'ils aient la vie en abondance. On va prier ensemble si vous voulez bien. Seigneur, merci encore de vous montrer ce chemin de la foi, qui est la chose à la fois la plus simple et la plus difficile pour nos cœurs, parce qu'elle n'est pas naturelle. Mais tu nous dis heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru à ta parole. Nous voulons croire ta parole et partir avec le triomphe, la gloire de ta parole, la victoire de ta parole. Et si, Seigneur, ce n'est pas fait dans notre cœur, et nous être vrais, à te dire, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, j'ai tellement de mal à croire dans ce domaine-là, et tu ne me laisseras pas. Tu accompliras ta parole, tu la béniras, tu choisiras les chemins qu'il faut, mais ces chemins seront bénis et conduiront vers toi. Nous t'apportons encore cette sœur qui vient de venir. Seigneur, tu connais sa prison, tu connais son cœur, son besoin de délivrance. Touche-la, attire-la, libère-la. Donne-lui un cœur qui te cherche, donne-lui ta lumière, et un cœur qui cherche la lumière pour que tu puisses la franchir, la libérer et la rendre heureuse avec toi. Et nous t'en remercions en ton nom. Amen.
Amen.